En ouvrant mon diaporama il y a 5 minutes, j'étais en train de. Le titre m'a frappé. J'ai vu marqué organiser sa veille thématique. Non, je n'ai pas fait de faute d'orthographe. Non,
j'ai demandé si tu avais fait mal.
Ça. Non, du tout. Je me suis dit, c'est bête, peut-être qu'ils étaient venus pour ça et qu'on aurait dû commencer par ça lundi matin. Bon, enfin, voilà, je me suis dit. C'était juste la petite réflexion. Bon. Enfin, vous commencez un peu à nous connaître. Donc, effectivement, on va vous parler de veille un peu juste maintenant, vraiment, et de veille et d'outils de veille, parce que finalement, on a considéré que c'était pas ça l'essentiel. Alors, j'espère qu'on a au moins partagé cette conviction-là, et que si vous en étiez pas convaincu lundi, maintenant, vous en êtes pas. Enfin, en tout cas, vous en êtes un petit peu convaincu quand même. Donc, la veille. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire en deux temps cet après-midi. Je vais juste commencer par une petite introduction assez rapide, et puis sur quelques sources, et quelques outils pour la veille. Alors, j'ai commencé en disant de la veille sur la veille. Parce que sans doute c'est déjà quelque chose que vous faites déjà, si vous êtes notamment abonné à notre liste de diffusion. Donc j'ai remis en fin de diaporama, mais l'idée c'est que vous avez un certain nombre de sources qui sont tout de même assez incontournables si vous êtes dans une approche de type veille, même si elles sont généralistes. Hein, là on est vraiment sur des choses plutôt généralistes, donc j'ai mis évidemment le café pédagogique, j'ai mis la lettre repère du ministère, hein, et puis l'AEF pour ceux qui sont abonnés, hein, c'est une agence de presse. Bon, c'est vrai que on y trouve des dépêches, bien évidemment, mais je dirais pour une culture générale sur le système éducatif et sur son évolution, ce sont quand même des outils assez incontournables. Agnès disait que quelques rubriques de l'AEF n'étaient pas réservées aux abonnés. Donc, j'avais pas cette connaissance. Je la reprends pour que tout le monde en profite, parce que je suis pas sûre que sa voix ait porté jusqu'à la fin de la salle. Ça, on était sur l'actualité. Alors, sur la veille, je dirais documentaire scientifique, hein, qui était plutôt l'objet de nos échanges de cette semaine. Il y a des gens qui font un peu des choses comme nous. Alors, il y en a plus que ça, évidemment, mais je vous en ai indiqué deux qui sont francophones. Donc, il y a l'IRDP en Suisse, dont on a dû déjà parler dans la semaine quand même. Qui a une démarche de veille documentaire thématique, qui est pas comme la nôtre, mais en tout cas qui a cette vocation de documentaire, donc qui est intéressante. Et puis il y a un autre observatoire. Agnès nous avait mentionné le CRIRES, hein, parmi les organismes canadiens. Non, là c'est l'Observatoire international de la réussite scolaire, c'est le CRIRES, tu en as parlé aussi. Le CRIF se contente de copier-coller nos contenus à nous, donc je l'ai pas remis sur la diapo. On s'est dit qu'on allait peut-être pas leur faire de la pub, déjà on en a parlé, c'est déjà... mais par contre le CRIRES, enfin l'Observatoire international de la réussite scolaire, qui est une émanation du CRIRES, dont j'ai oublié le développement, mais bon c'est un réseau en fait, hein, canadien, a aussi une approche de type veille bibliographique thématique qui est intéressante, hein. Donc je vous le signale simplement. Alors j'avais écrit de la veille sur la veille à la veille éditoriale. Alors il y a plusieurs. Bon, j'ai distingué deux manières de faire de la veille, enfin deux approches en fait. Hein. Donc une veille effectivement organisée par type de production. Donc c'est un peu ce qu'on fait nous quand on va effectivement faire une veille sur les actualités, les nouveaux livres, une veille sur les nouveaux sommaires de revues, une veille sur les derniers rapports, etc., etc. Donc là on est sur une veille qui n'est pas une veille thématique, hein, qui est une veille par type d'information. Donc comment on structure cette veille par type d'information? Elle peut être plus ou moins facilement structurable. Donc j'ai mis effectivement, quand il s'agit de revues internationales, si Marie, ma collègue Marie était là, elle nous dirait qu'effectivement pour toutes les revues internationales que l'on suit, il y a quelque part un fil RSS. On vous montrera après, hein, ce que c'est qu'un fil RSS, etc. pour l'instant, je le mentionne simplement. Pour les ouvrages, il y a aussi des outils qui permettent de suivre les actualités. Olivier peut vous en dire deux mots si ça vous intéresse. Hein, donc j'en ai mis deux ici. Je suis même pas sûre que c'est vraiment cela que tu utilises, mais Electre, Olivier. Bon, donc tout va bien. Donc qui permettent de suivre les sorties, en tout cas, hein, les nouveaux ouvrages. Les rapports gouvernementaux, c'est des choses qui sont aussi faciles à tracer. Une fois qu'on a identifié qui publie les rapports gouvernementaux, je pensais notamment à Lovestead en Angleterre, hein, tous les rapports d'inspection du service d'inspection de l'éducation anglais, c'est absolument phénoménal. Si vous connaissez pas ça, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le mentionner à un autre moment, donc je le dis ici parce qu'ils font un travail d'évaluation et d'analyse, d'audit, etc., qui est phénoménal. Ils ont un service d'inspection qui fait tirer la langue à tous les corps d'inspection dans le monde. Et là, c'est facilement traçable, effectivement. Après, si on est toujours sur de la veille par type d'information, il y a des choses qui sont plus ou moins bricolées. Et parmi les choses bricolées, je vais mettre les revues françaises. Et là, Annie ne me contredira pas, je pense, parce que pour faire de la veille sur les revues, enfin les sommaires de revues françaises, il faut véritablement bricoler. On ne peut pas avoir un outil unique. Il y a quasiment pas de flux RSS. Hein. On a vu que l'existence des revues françaises sur le web était assez limitée. Donc là, il faut bricoler pour récupérer l'information. Les rapports de recherche, c'est la même chose, et les thèses, c'est également la même chose. Donc cette veille par type d'information, elle est plus ou moins facile à mettre en œuvre. Mais bien évidemment, elle n'est pas satisfaisante non plus, parce que si vous ne faites pas de la veille pour faire de la veille sur les thèses, ou pour faire de la veille sur les rapports, ou pour faire de la veille sur... Voilà. Vous faites de la veille parce que vous avez un thème quelque part. La manière de structurer sa veille, c'est aussi parce que vous partez d'un champ sémantique qui va vous permettre de construire un champ conceptuel, etc., etc., par tâtonnement, hein, puisque vous devez être, à l'issue de cette semaine, suffisamment convaincu qu'il n'y a pas de recette. Hein. Donc cette veille thématique, comment on l'a construit? Pas de couteau suisse. C'était l'idée qu'il n'y avait pas d'outils qui permettaient de tout faire. C'était quand je dis voilà, c'était le côté outil. le côté outil, il y a effectivement des technologies, et il y a des outils qui doivent être combinés. Hein. Donc évidemment des abonnements à des listes de diffusion, des abonnements RSS, des agents d'alerte, dont je vais vous donner un ou deux exemples de suite après. Donc des agents d'alerte qui ont vocation à permettre, enfin à vous alerter quand certains contenus sont modifiés. Hein. Ça détecte les contenus, ça détecte les modifications, les mises à jour sur une page web. Donc des veilles évidemment sur des ressources à identifier, et puis j'ai mis une veille sur des personnes ressources à identifier. C'est ce qu'on a touché du doigt un peu ce matin avec le Web 2, c'est ce qu'on peut toucher du doigt avec Digo, avec Zotero qui partage de la bibliographie, avec Site You Like qui partage de la bibliographie. Si vous allez explorer les parties publiques hein, de ces sites, il est tout à fait possible, et ces outils ont cette vocation-là, que vous repériez des gens qui ont des thématiques de veille qui sont proches des vôtres et qui vous intéressent. Donc dans ce cas-là, vous ne suivez plus un site ressource, ou vous ne suivez plus un organisme, vous suivez quelque part, vous veillez sur ce sur quoi quelqu'un d'autre veille. Donc c'est aussi mais je pense que Rémi vous montrera tout à l'heure, par exemple, la veille sur Twitter, on est aussi là-dedans, c'est-à-dire que sur Twitter on va suivre des personnes qui veillent, hein, on suit pas des ressources. Et puis ce vers quoi on évolue quand même un petit peu, c'est la veille sur mesure. Quand je dis la veille sur mesure, c'est quand, par exemple, vous allez poser des requêtes, hein, combiner des mots-clés sur une base de données ou même sur Google Scholar. Certains outils doivent vous permettre, bon, on en a un qu'on utilise un peu mais qui est en rade en ce moment, donc on ne peut pas vous donner l'exemple, mais a priori ce type d'outil qui va se développer, parce que quand vous posez des requêtes sur des bases de données bibliographiques, bon, en général vous utilisez un peu un vocabulaire, enfin le vocabulaire qui est fourni par la plateforme, etc., donc vous êtes sur des choses un peu pointues, donc susceptibles de répondre véritablement à vos demandes. L'idée de pouvoir être alerté quand il y a de nouveaux documents sur la plateforme bibliographique qui correspondent à votre requête, c'est quand même intéressant. Donc j'ai mis de la veille sur mesure, enfin je sais pas si vous me suivez par rapport à ça, hein. Vous allez lancer votre question sur un outil bibliographique, et une fois que vous avez votre liste de résultats, on vous propose la possibilité de vous abonner soit par mail, soit par RSS à une mise à jour de cette liste de résultats. Voilà, c'était ça, la veille sur mesure. Alors, une veille thématique qui doit se construire pas à pas, par tâtonnement, etc., on est bien d'accord, mais une veille qui doit aussi se déconstruire périodiquement, parce que on est très rapidement débordé, on va voir un flux RSS à gauche, on l'ajoute dans son agrégateur, on en prend un autre à droite, enfin, on se retrouve avec un onglet de flux, deux onglets de flux, trois onglets de flux, vous verrez sur NetVibes tout à l'heure les copies d'écran qu'on va vous montrer, plus qu'on reçoit par mail, plus les pages qu'on surveille, c'est pas tant la collecte qui pose problème, parce que l'information elle circule, c'est ce qu'on en fait. Donc il faut de temps en temps arriver à s'asseoir et se dire je vais faire du ménage, je vais faire du désherbage comme font les bibliothécaires dans les bibliothèques, pour enlever des rayons les ouvrages qui sont peu consultés, etc. Il faut désherber son agrégateur de flux, il faut enlever les choses qui nous sont les moins utiles pour pouvoir aller être plus réactif par rapport à ce qui est vraiment utile. Le sur-mesure, c'est vous-même qui vous créez le type d'information que vous voulez recevoir. Dans une liste de diffusion, vous recevez ce que d'autres envoient sans vraiment... C'est pas exactement la même approche. C'est vrai que ce côté sur-mesure, il n'est pas encore très démocratisé. La plupart des bases de données, sur EBSCO, je pense qu'on peut le faire, parce qu'on peut créer des fils RSS à partir d'une requête. Par exemple, oui. Le fil RSS, mais Rémi va vous le montrer juste après. Hein. Moi, je présente juste des types d'approches, des types d'outils. C'est l'idée, effectivement, de pouvoir se construire... vous lancez votre recherche avec vos mots-clés comme vous avez fait jeudi, et puis si votre requête elle vous convient, vous essayez, vous tâtonnez, vous avez une requête qui vous donne vraiment des résultats qui vous paraissent conformes à ce que vous recherchiez, eh bien l'idée c'est de, avec cette requête, donc avec cette combinaison de mots-clés, vous créez une alerte, soit par mail, soit par RSS, pour recevoir les nouvelles publications qui correspondent à cette requête. La plupart des bases de données, je ne sais plus avec qui j'ai vu ça ce matin, les bases de données bibliographiques vous proposent vous permettent en tout cas de créer des alertes. Par mail, c'est sûr, par RSS, ça dépend des plateformes. Elles vous permettent aussi de faire des paniers. On voyait ça ce matin. Toutes les bases de données bibliographiques, vous pouvez faire des paniers de sélection. Donc vous sélectionnez, et une fois que vous avez votre panier, vous pouvez exporter. Vous avez toujours des formats d'export. Il n'y a pas toujours du BibTeX, c'est ce qu'on regardait ce matin, mais il y a toujours un format d'export par mail, donc vous récupérez du matériau bibliographique. Alors, le processus de veille, il y a trois étapes. Il y a la recherche d'informations, il y a le traitement et il y a l'exploitation, dans le sens où on en fait quelque chose, on produit quelque chose avec ce qu'on a récupéré. Ce que j'avais envie de dire simplement avec cette diapo, c'était que nous, la manière dont on utilise les outils, les technologies pour la veille, on se situe vraiment au premier niveau. Au niveau de la collecte, parce que si par exemple vous avez fait des études en sciences de l'information, il y en a certains parmi vous, on a pu vous présenter des outils magiques, des énormes plateformes qui vont tout vous faire d'un bout à l'autre. Il suffit de leur indiquer où aller chercher, et puis vous posez trois mots clés, et périodiquement, il y a une recherche qui se fait, et puis on vous ressort à la fin des bulletins tout prêts. Voilà. Bon, ça existe, hein, il y a des outils comme ça. On n'est pas du tout là-dessus, nous. On est.
C'est comme ça qu'ils font les journaux maintenant, d'ailleurs.
Donc, si, enfin, je veux dire, si ces côtés outils de veille vous titillent et que vous avez envie de découvrir, il y a tout un monde à découvrir là. Hein. Aujourd'hui, on vous parle vraiment du tout petit bout de la lorgnette et donc des deux ou trois outils très très utiles qu'on peut utiliser dans la phase initiale, c'est-à-dire dans la phase de récupération de l'information. Après, le traitement, l'évaluation et l'exploitation, vous avez bien compris depuis lundi matin que ça, c'était un peu une action humaine. Sinon, comme j'ai dit au tout début, on aurait commencé lundi matin en faisant un cours sur la veille. On a gardé ça pour vendredi après-midi. Bon. Alors, sur les outils. Donc, les outils, comme je vous disais tout à l'heure, il y a effectivement des agents d'alerte. Je vais vous montrer deux ou trois copies d'écran. Alors, quand je dis des agents multipostes, effectivement, c'est les gros systèmes dont je venais vous parler. Hein, donc, c'est des systèmes réseau. Je n'ai pas cité de marque parce que, d'abord, je ne les connais pas. Donc, je ne vois pas pourquoi j'en citerai un plus qu'un autre. Mais il y en a des tas. Il y a un numéro spécial d'Archimac qui est sorti là-dessus il n'y a pas très longtemps, septembre 2009. Bon, voilà. Là, vous avez sûrement un benchmark et des choses très intéressantes. Si ces gros systèmes vous intéressent, j'ai pas noté la référence exacte, je l'avais pas sous la main. Et le prix, oui, comme c'est un numéro spécial, je pense qu'il doit être un peu plus un des outils. Un agent d'alerte, c'est ce qui va vous permettre d'être alerté quand il y a un changement quelque part. Donc les agents d'alerte dont je vais vous parler ici, ce sont des agents qui sont, oui c'est ça, qui vont vous avertir d'une manière ou d'une autre, par mail le plus souvent, ou alors, on va voir, qui vous permettent de surveiller des pages, pour détecter les changements sur ces pages. Donc ça veut dire que quand vous n'avez pas de liste de diffusion, de lettre d'information sur un site ressources, ou quand vous n'avez pas de flux RSS, qu'on va voir aussi juste après, à la base, vous pouvez sélectionner une page, par exemple une liste de publications, hein. Typiquement, si vous avez quelque part une liste de publications thématiques d'un laboratoire, vous vous dites, le jour où on va ajouter quelque chose sur cette page-là, ça m'intéresse de le savoir, j'ai pas forcément envie d'aller visiter cette page 50 fois dans la semaine, donc je place une alerte sur cette page, et le jour où on va rajouter une publication dans la liste, je vais être informé. Ce sera un exemple concret juste après, oui. Je voulais juste dire en fait qu'il y avait différents types d'outils qui permettent de recevoir cette information. Donc il y a ces agents monopostes de type WhistleWatcher, donc là ce sont des logiciels qu'on installe sur des postes de travail. Il y a des extensions intégrées au navigateur. C'est une petite extension qu'on installe sous Mozilla, toujours pareil, parce que c'est là où on trouve le plus facilement d'extensions. Update Scanner, par exemple, c'est pas la seule, hein. Ce sont des exemples d'outils qu'on connaît parce qu'on les utilise, hein, simplement, ces deux-là en tout cas. Commence à émerger aussi un petit peu des agents en ligne qui fonctionnent un petit peu comme ce qu'on a vu ce matin avec Site You Like. Donc vous allez sur un site, vous vous créez un compte avec un login, un mot de passe, et vous indiquez les pages que vous souhaitez surveiller sur ce site, et vous recevez les alertes, c'est le même principe. Et puis, à côté de ces agents d'alerte qui permettent de surveiller des pages statiques, vous avez des outils personnel de type Web 2.0 mutualisable, donc RSS, Twitter, Digo et Delicious qui a la même fonction, mais ça ce sera Rémi qui va vous montrer deux ou trois exemples. Alors je disais on n'a pas d'outils communs parce qu'on ne veille pas sur les mêmes sujets. D'abord les sujets on les change à peu près tous les 3 mois et on veille pas sur les mêmes objets non plus, hein. On fait pas la même chose une veille sur les livres qu'une veille sur les revues, qu'une veille sur les rapports, ça nécessite pas le même genre d'outils. Donc chacun se construit son environnement, ça sera nécessairement la même chose pour vous, hein. Et c'est ça qui permet de concilier réactivité et agilité. Voilà. Watch That Page, c'est un de ces agents d'alerte, c'est celui sur lequel il faut aller s'inscrire en ligne, se créer un compte, et évidemment c'est celui qui présente le moins de fonctionnalités parce qu'il est en ligne, donc il est simple, mais en termes de paramétrage des alertes, c'est un peu frustre. Donc on va se créer son compte, on indique, comme vous avez rentré ce matin des notices bibliographiques dans Site You Like, là vous rentrez pas une notice, vous rentrez une URL, une adresse de page, en demandant, en l'enregistrant, et l'outil va vous permettre de recevoir par mail un mail quand effectivement il y aura un changement sur cette page. Ça veut dire que vous paramétrez, vous indiquez que vous voulez que cette page soit vérifiée une fois par semaine, tous les jours, vous paramétrez ça, et s'il n'y a pas de changement, vous recevez rien. S'il y a un changement, vous recevez un mail qui vous dit il y a eu un changement sur cette page que vous surveillez. Ces agents d'alerte se positionnent sur une page, ouais. Ce sont les aspirateurs de sites qui travaillent sur les sites, mais là, une fois que vous les aspirez, vous pouvez plus rien. Enfin, c'est en local, quoi. Non, ça, c'est pas possible sur les sites. Enfin, les gros systèmes, si, effectivement, les gros systèmes multipostes, réseaux que personne peut s'acheter, là, oui, il y a des possibilités, mais pas sur les outils individuels. Update Scanner, c'est l'extension que vous installez dans le navigateur. Rémi, je te laisse, c'est toi qui l'utilise essentiellement. Tu veux dire deux mots ?
Non.
Non ?
Si, il faut.
Bon.
Non, mais. je reconnais pas la page, en fait.
Ah ben non, parce que, en fait, j'ai pris les copies d'écran qui sont sur. C'est pas très adapté à la veille en éducation, je suis désolée. Mais je me suis pas installée. Donc là, c'est juste la première diapo, visiblement, c'est pour récupérer la page pour l'installer, pour la surveiller. Non ?
Peut-être. Oui, non, le principe, c'est qu'il y a un menu sur la gauche du navigateur après. C'est ça le capture d'écran ?
Écoute, voilà.
Bon. Alors, il y a un menu sur la gauche qui apparaît avec en gras les pages qui ont été modifiées. Et si on clique dessus.
Oui, mais ça, c'est la phase juste avant, pardon. C'est la phase où tu récupères l'adresse, oui. Et c'est le petit truc bleu,
voilà,
là, c'est ça ?
C'est sa flèche bleue, oui. Ça, oui. Ça,
bon.
Oui.
Tu vois ? Donc apparemment, quand vous êtes sur une page, que vous avez installé cette extension, vous cliquez là-dessus. C'est pas ça que je voulais faire. En fait, on n'est pas en live, voilà. Donc ça vous ouvre un menu et ça vous permet d'indiquer à l'extension que vous voulez surveiller cette page. Vous avez un deuxième écran qui vous permet de paramétrer, si vous voulez la scanner tous les jours ou jamais. Jamais, c'est vachement utile. Mais bon. Oui, ça doit être ça. Oui, ça veut dire que c'est pas automatique.
C'est en vacances, c'est utile.
Peut-être. Oui, c'est vrai. Et puis vous indiquez la nature des changements. Parce que vous savez, il y a certaines pages sur le web où vous avez par exemple la date. Il n'y a rien d'autre qui change que la date. Vous pouvez avoir des alertes tous les jours qui vous disent il y a des nouveautés extraordinaires et vous allez voir et vous vous êtes fait avoir. Donc là, vous avez une espèce de fonction qui vous dit small changes are ignored, donc moins de 100 caractères. Bon, ça permet de gérer grossièrement ce genre de dérive. Et donc, une fois que vous avez rentré vos URL à surveiller, vous avez effectivement. Je te laisse continuer ou je continue à parler d'un outil que j'utilise pas, mais. Le principe est le suivant, voilà. Donc, dans votre navigateur Firefox, vous avez à un moment donné cette indication qu'il y a certaines pages qui ont été mises à jour et vous pouvez ouvrir et vous allez voir ce qui a été mis à jour et surligné, etc. Voilà. Donc ça, c'est l'extension du navigateur. Et pour terminer, je vais vous montrer deux diapos d'un logiciel qu'on a installé, qu'on s'est tous acheté à un moment donné, Website Watcher, qui est un logiciel monoposte qui coûte pas très très cher, qui est donc accessible à un particulier, on va le dire comme ça. Donc vous l'installez sur votre ordinateur, et là vous avez évidemment des fonctionnalités. Le principe est exactement le même que les deux outils que je viens de vous montrer, simplement avec des fonctionnalités un tout petit peu plus avancées quand même, notamment notamment en termes de paramétrage de la surveillance. L'outil permet en particulier de définir des zones à exclure, ce qui est quand même très intéressant parce qu'il y a certaines pages où c'est quand même le contenu principal qui vous intéresse et pas forcément ce qui se passe autour. Et de manière brute, vous avez une alerte à chaque fois, enfin à chaque fois qu'il y a une modification. C'est peut-être pas ça dont vous avez envie, ça dépend de la zone. Donc vous pouvez soit définir les zones à exclure, type les dates ou les choses comme ça. Vous pouvez aussi définir les zones à surveiller. Inversement, hein. Donc ça dépend des pages, comment elles sont structurées. Mais il y a en tout cas cette possibilité de filtrage qui est quand même pas inintéressante. Et à travers, vous pouvez affiner davantage par rapport à un ensemble de pages que vous surveillez. Vous pouvez dire que vous souhaitez uniquement être informé quand il y a un mot-clé particulier qui s'affiche sur cette page et pas seulement quand il y a un changement. Donc voilà, c'était l'idée qu'il y a des fonctionnalités un petit peu plus avancées pour paramétrer cette surveillance. Et cette surveillance peut se faire de manière automatisée ou de manière manuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez indiquer à votre logiciel qu'il a scanné un groupe de pages toutes les semaines et puis un autre groupe de pages une fois par mois parce que c'est moins sensible. Bon, vous avez cette possibilité-là. Et puis, vous pouvez aussi dire que ben non, c'est vous qui le faites. Et le jour, le matin, vous êtes disponible pour faire ça, vous ouvrez votre logiciel et là, vous décidez de scanner tel dossier d'URL parce que c'est ce dossier-là que vous avez envie de vérifier ce matin. Donc, voilà. Alors, ça ressemble à... Oui, si, ça ressemble à ça. Donc voilà, vous avez dans cette zone votre classement. En gros, bon, vous voyez pas très bien parce que c'est petit, mais c'est des dossiers avec à l'intérieur des URL de pages. Hein, en gros, donc c'est classé. C'est vous qui faites votre classement. Mais là, c'est la phase d'acquisition. Donc dans le navigateur, quand vous naviguez, pareil, vous avez un petit bouton sur lequel vous cliquez pour récupérer l'URL de la page sur laquelle vous vous trouvez. Et il y a cette boîte de dialogue qui s'ouvre qu'on ne voit pas très bien mais qui vous rentre le titre de la page ici, l'URL et qui vous offre tout un tas de menus pour paramétrer la surveillance sur cette page particulière. Donc voilà, et là c'est plutôt, on n'est plus dans l'acquisition, on est dans l'alerte, mais je ne sais pas si on peut recevoir des alertes par mail avec vous. On peut ? Moi je ne le fais pas, mais tu l'as fait toi.
Mais bon, sur WebSecWatcher, honnêtement, si on veut bien le paramétrer, il faut y passer quand même pas mal de temps dessus.
C'est vrai.
Moi, je sais que j'avais arrêté de l'utiliser à un moment donné parce que je trouvais que c'était une belle machine, mais j'avais plus le temps de le gérer, quoi. Mm. Et notamment à cause des alertes par mail, que si on en met quelques-unes, et ben, voilà, il faut avoir le temps de les traiter.
Oui, c'est ça.
Parce qu'au bout d'un moment, chaque jour, on reçoit des alertes, et puis si on ne va pas les voir, elles s'accumulent et on ne sait plus comment faire.
Oui, moi j'avoue que je pratique pas la veille automatisée avec ce type d'outil. Hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure, le matin où j'ai décidé que j'allais m'occuper des rapports, j'ouvre l'outil et je lance la vérification des signets qui correspondent à ma rubrique rapport et là je vois ce qui a changé. Mais c'est pas automatisé, sinon effectivement on est envahi. Tout dépend de votre utilisation, hein, effectivement. Et donc là, j'ai lancé la vérification sur un dossier qui est celui-là, je vois pas ce qu'il y a dedans, mais ça scanne pendant, 30 secondes, et au bout de 30 secondes, vous avez en rouge la liste des sites sur lesquels il y a eu des modifications depuis votre dernier passage.
Donc deux outils, je vais vous présenter deux outils. Un premier sur les flux RSS. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un flux RSS? Alors, on trouve les flux RSS sur les... On trouve les flux RSS sur les pages, on les repère grâce à ce logo généralement, orange, avec les petits traits blancs. Vous avez peut-être dû voir ça sur pas mal de pages. Ça veut dire qu'il y a un flux RSS. À quoi ça sert? Alors, il y a la définition de Wikipédia, mais le principe, c'est de recevoir la liste des nouveaux articles publiés sur un site, un blog, ou avec un résumé pour chaque article, mais à laquelle on doit s'abonner. C'est pas par mail, c'est à travers un petit outil. Il en existe une foultitude qui permet de... Voilà, c'est l'information Alors c'est intégré au nouveau navigateur Firefox, Internet Explorer. On peut mettre, on peut, j'ai perdu le mot. On peut coupler ça avec le courrier électronique quand même. Enfin, des fonctions du logiciel de courrier électronique. Avant qu'il y ait flux RSS sur les sites statiques, il fallait qu'on aille se connecter tous les matins sur les sites pour aller voir s'il y avait des nouveautés. Et ça veut dire se rappeler de ce qu'on avait lu la veille pour savoir si quelque chose avait été rajouté. Pour 2 sites, ça va. 3 sites, ça va. Pour 20 sites, 50 sites, c'est plus gérable. Ça, c'était avant. Maintenant, avec les flux RSS, c'est l'information qui descend sur l'ordinateur. Abonnement, l'information qui vient, on est plus rapide, plus efficace. Il y a un gain de temps, un gain de temps indéniable. Alors, il existe plein d'outils. On va en présenter un qu'on utilise à peu près tous, je crois, hein, NetVibes, qui est un outil en ligne. C'est pas installé sur le navigateur, c'est pas couplé à un poste, mais comme c'est en ligne, on peut y accéder et voir la même chose depuis plusieurs endroits. Alors, lié à un poste de travail, j'ai marqué quelques noms qu'on va pas détailler ici. Outils en ligne, NetVibes, mais il y a aussi Google Reader qui est pas mal utilisé, et puis d'autres. Oh, je parle d'un outil en ligne qui permet de gérer les flux RSS. Pourquoi celui en ligne plus que celui monoposte? Parce que il est sûrement plus pratique si on travaille sur plusieurs postes, par exemple. Mais c'est bien des outils de gestion de flux RSS. Là, c'était pour aller voir sur la page des sites. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'y aller. Bon, vous aurez le PDF, vous irez plus tard. Alors, NetVibes, c'est un outil multitâche qui permet plusieurs types d'organisation de tous les sites qu'on souhaite surveiller. On peut avoir des onglets. Vous voyez ici, c'est une capture d'une page. En haut, on voit que on a plusieurs, on voit pas grand chose, mais c'est plusieurs onglets qui permettent de classer les sites. Chaque onglet peut s'afficher de manière un peu différente, donc on peut paramétrer l'affichage en nombre de colonnes, l'organisation. Bon, on peut avoir des pages distinctes et dans chaque page des onglets. Ce qui veut dire que concrètement, moi, par exemple, j'ai 4 pages différentes et dans chaque page, j'ai une dizaine d'onglets. Avant qu'ils mettent les pages, si on se retrouve, des fois, on tombe sur des pages NetVibes avec, 30 onglets, qui fait que la page est illisible parce qu'on a déjà la moitié de la page qui est occupée par les onglets. Donc, ça permet d'organiser un peu plus clairement. Alors, des exemples de pages. Ici, c'est le site, c'est la page NetVibes de la VST où on a mis accessible au public tous les flux RSS qui concernent ce qu'on produit sur le site de la VST. Là, on voit que si on regarde de plus en détail celui qui correspond à notre blog, apparaît en gras les choses qui sont nouvelles ou qui n'ont pas encore été lues. Donc ici, il y a un article qui est non lu, qui concerne une formation pour se repérer et organiser sa veille en sciences de l'éducation. On peut espérer que ceux qui ont fabriqué le site, ils ont lu ce qu'ils ont mis dedans. Non, c'est moi qui surveille, c'est moi qui ne l'ai pas lu. Voilà, c'est moi qui surveille, c'est moi qui ne l'ai pas lu encore. Ça veut dire que je suis allé lire l'article dessus, l'article dessous, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Si je clique dessus, voilà ce qui s'affiche, c'est en bas là, le résumé, là en l'occurrence le début de l'article, et si ça m'intéresse, si je vois que cette information sur un stage qui se passe à l'INRP sur la veille en sciences d'éducation me paraît intéressant, je vais cliquer sur là où c'est marqué lien, pour accéder à la page du site. On peut avoir des pages publiques. Alors par exemple, on va quand même y aller. C'est pas un lien. Page publique sur l'éducation. Je sais plus qui fait cette page de... J'arrive pas à lire, c'est trop petit. C'est la nôtre, ça. C'est notre page publique, pardon. non, mais Non, mais par contre, une page publique, si on y va, forcément, c'est pas lu, parce que c'est pas moi qui la gère. On arrive sur des pages où tout est en gras, mais ça veut pas dire que je l'ai lu ou pas. Il faut distinguer ce qui est la page publique que tout le monde peut aller voir et la page privée où là, c'est moi qui gère. D'accord. On peut intégrer dans NetVibes d'autres outils, d'autres fonctionnalités type Web 2. Ça veut dire que NetVibes va vous permettre d'interagir avec ce que je vais vous présenter tout à l'heure, Twitter. Ça veut dire que si on va sur le NetVibes de DocuCentre, qui est assez productif sur la veille, on a sur le NetVibes de DocuCentre le fil de discussion du CRN, par exemple, qu'ils ont affiché, qui leur semblait pertinent. Donc, ils affichent sur la page publique des discussions qui ont lieu sur Twitter ailleurs, mais qui sont sur la même problématique que ce qu'ils publient sur NetVibes. Je ne sais pas si je suis clair. Un Twitter particulier qui est celui de DocuCentre qui traite de... D'accord ? Donc voilà, c'est la rencontre de... Alors, on y va. J'ai ça, c'est ma page NetVibes. Je suis sur la page des flux de la VST. Je vais sur... par exemple, sur le site de l'INRP. Je vois ici qu'il y a le logo que j'ai mentionné tout à l'heure. Si je clique dessus, je vais vous faire voir, mais c'est pas un TP, donc je clique sur ce qui m'est proposé. Voilà généralement à quoi ça ressemble un flux RSS. En fait, c'est un fichier XML, c'est un fichier texte avec des informations dedans, qu'il faut récupérer. Donc c'est ça, c'est cette adresse là-haut que je copie. Je vais dans NetVibes et je vais l'insérer dans NetVibes. J'ajoute du contenu, c'est un flux RSS. Je le colle là, à côté du même logo.
Oui.
Mais là, alors, sauf. Pour le lire après, oui, mais c'est pas pratique pour le lire. Voilà, ici, il me dit, est-ce que je le mets dans les marque-pages dynamiques ? Ça veut dire que ça reste à l'intérieur du navigateur, mais c'est lié au poste et c'est pas pratique d'utilisation. Est-ce que je le mets dans les services style Google Reader, style MyYahoo qui permet ça, ou style NetVibes ? Voilà. Là, ce qui va s'afficher là dépend du paramétrage du navigateur. Donc, c'est un peu délicat de dire... Bref, qu'on passe par un côté ou par un autre, on le récupère ici. Une fois que je l'ajoute, je vais avoir un nouveau carré en bas. Voilà, ici, le nouveau carré qui s'appelle « Actualité ». Et « Actualité », pas de la veille, mais du site de l'INRP. Donc, on voit que là s'affichent les derniers articles qui ont été publiés sur le site de l'INRP. Quelle vie scolaire pour les élèves, thème du dossier d'actualité numéro 49 d'AVST. Ça m'intéresse. Je clique dessus. Il n'y a pas l'intro qui apparaît parce que c'est pas directement sur le site de la veille. Mais j'ai accès au site. Et là, l'article m'intéresse. Pas l'article complet, mais je peux le remettre en lu, non lu, ce qui me permet d'y revenir plus tard. Je peux... voilà. Donc, là, j'ai rajouté une patate ici, qui me permet de suivre l'actualité d'un site. Donc, par exemple, moi qui veille sur les thèses, voilà, l'INSA a publié ces derniers jours quelques thèses. ALSIC, non, mais ça fait un moment qu'ils n'ont pas publié. Lyon 2 publie de manière très régulière des thèses sur son site. Donc tout ce qui est en gras, c'est que je suis pas encore allé voir si c'était à retenir pour la rubrique. Alors, toujours ajouter du contenu, et au lieu d'aller ajouter un flux RSS, ça s'appelle des widgets. Enfin, si on tape ici Twitter, il va nous proposer des différents trucs qui correspondent à différents cas de figure qu'on va pouvoir insérer. Là, c'est plus du flux RSS, encore que ça fonctionne un peu pareil, mais on peut paramétrer. Alors, Laure parlait tout à l'heure des requêtes qu'on faisait sur des bases de données et qu'il y avait moyen de s'abonner d'être prévenu des nouveautés qui étaient publiées ultérieurement à notre requête à partir de la même requête. C'est ça, hein, c'est pas très clair.
Sur mesure,
c'était mieux dit. Il y a un service, à notre connaissance, il n'y en a quand même pas 36, qui était en rade jusqu'à la semaine passée, on était un peu inquiet pour le présenter. Il n'est plus en rade, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas revenues, mais on a pu faire des captures d'écran et puis vous présenter l'idée. PubFeed, c'est l'université de Toronto, je crois, qui a développé ce service, qui va, à partir d'une requête qu'on fait sur Google Scholar, créer un flux RSS et on peut récupérer ce flux RSS dans NetVibes. Alors, oui, c'est Toronto. Ces flux RSS sont publics, ça veut dire qu'on a créé une requête sur le site directement de PubFeed et cette requête est accessible à tout le monde. Ça veut dire qu'on peut profiter des requêtes d'autres personnes qui veillent un peu sur le même champ. Sur le site, ça se présente comme ça. À droite, les flux que j'ai créés moi. À gauche, les flux auxquels je suis abonné. Donc, par défaut, je suis abonné aux flux que j'ai créés, mais je peux être abonné à d'autres flux que d'autres ont créés. Une requête que j'avais faite, c'était handicap et école. Donc, en français, avec des publications. Du coup, il va chercher, les mots handicap et école vont se trouver dans des publications en français, a priori. Donc là, il y a un flux RSS que j'ai intégré dans NetVibes qui me tient informé des nouveaux résultats de cette requête sur Google Scholar. Alors, puisqu'on fait des allers-retours, là j'ai un onglet PubFeeds. Voici les flux que j'ai créés, video games, didactique des langues, jeux apprentissage, drama in education. Bon, tout ça, c'est alimenté automatiquement. Donc sur des thématiques, bon bah dans certains sont plus forcément à l'ordre du jour, d'autres me servent encore pour les prochains travaux qu'on doit faire. D'autres outils de gestion de flux RSS, mais ça je devais la virer cette parce que je l'ai déjà montré cette diapo. Alors le microblogging, tout le monde sait ce que c'est que le microblogging. C'est Twitter, vous avez entendu parler de Twitter? Ouais, Twitter, c'est un service de microblogging. C'est publier en 140 caractères maximum des informations intéressantes, autres que je me suis réveillé de mauvaise humeur, mon café était trop chaud ce matin, ce qu'on trouve beaucoup, hein. Mais l'idée étant, comme le disait Lord tout à l'heure, c'est de repérer les personnes, parce que ce sont des personnes qu'on va suivre, repérer les personnes intéressantes, pertinentes sur un domaine donné. Alors, il y a beaucoup de bruit sur Twitter, mais une fois qu'on a repéré un réseau, on arrive à en faire un outil de veille très réactif et très productif aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut, on peut pas tout suivre. Il y a forcément des choses qu'on loupe, mais c'est le principe de Twitter. Alors, le microblogging, j'aurais dû l'afficher, moins de 140 caractères en général. Le but est de partager. On souscrit à des flux, principe d'abonnement, ça prend une autre forme, mais on est informé de ce que les gens qu'on a décidé de suivre racontent publient sur cette plateforme de microblogging. Les outils, Twitter c'est le plus connu, c'est aussi celui où il y a le plus de monde, c'est celui où il y a le plus de bruit, mais c'est celui où il y a le plus d'informations. Donc il faut jongler entre ne pas se noyer et puis trouver l'information pertinente sans être complètement perdu. Un autre qui existe, qui est plus sur l'optique logiciel libre, c'est Identica, qui est prometteur, mais qui a quand même beaucoup moins de monde. Et donc, si on veut faire une veille sur un sujet donné, on aura beaucoup moins de sources. Alors, Twitter, pour faire de la veille, le tout, c'est de trouver des personnes intéressantes. Trouver des gens sur Twitter, c'est très facile. Trouver des personnes intéressantes, c'est déjà plus... il faut chercher un peu plus loin. Il y a un site, alors il y a une foultitude de sites qui tournent autour de Twitter qui viennent apporter d'autres, un peu de valeur ajoutée, ou qui viennent organiser, ou qui viennent donner d'autres fonctionnalités qui vont être utiles. Alors un site français, KeyTweet, qui permet d'avoir les tweeters, je sais pas comment est fait le classement, honnêtement, je sais pas si c'est pertinent, mais c'est classé par thème. Donc si on est en éducation, là au milieu il y a un petit signet éducation, on va avoir tous les tweeters qui parlent des gens qui tweetent, qui parlent d'éducation. Si on clique sur cette page, on va voir que en fait c'est très institutionnel. On va avoir le ministère de l'Éducation nationale, qui a eu son dernier tweet doit avoir plus de 3 mois, ça devait être le deuxième. On va avoir des inspections, des CRDP, des universités, des presque exclusivement de l'institutionnel. Certains sont intéressants à suivre, hein. D'autres sont plus une galerie, mais ils ne l'utilisent pas. Des sites complémentaires, il y en a un que j'ai retenu parmi toute la flopée de sites qui existent, c'est TweetTabs, qui permet des recherches, même si on n'a pas de compte Twitter, mais qui permet d'effectuer des recherches en temps réel sur des mots-clés, sur les messages qui circulent sur Twitter. Et là, on n'est pas sur des recherches individuelles, par contre, mais on est sur des recherches sur l'ensemble des tweets au niveau international. Donc, si on a des mots-clés français, ça va restreindre, mais si on est sur des mots-clés anglais, ça défile. Donc, il faut manipuler avec précaution, mais ça permet d'avoir... Alors, un message de 140... J'aurais peut-être dû commencer par là. Un message de 140 caractères maximum, en quoi ça peut être intéressant ? Généralement, c'est intéressant pour mentionner des ressources, c'est-à-dire qu'il y a un lien. S'il n'y a pas de lien... Il y a de fortes chances pour qu'on puisse rien en faire. Ça va être l'avis de quelqu'un sur quelque chose, on ne saura même pas forcément de quoi il parle. Mais ce qui est important, c'est la sélection d'informations. J'ai repéré ce rapport, cet article, ce site, cet outil. Je l'envoie sur Twitter et là, s'il y a un lien, ça va nous mener. C'est un fil. Hier, on parlait dans les TP de fil. Il faut trouver un fil pour tirer. Là, on peut trouver des fils. Voilà. Par expérience, un message qui n'a pas de lien, a priori, pour moi, il n'est pas intéressant parce qu'il n'a pas. Il va rien. Dans ce que je recherche là, pour mon utilisation, il ne va rien m'amener. Sauf si c'est le tweet d'une personnalité qui a la science infuse sur son domaine et qui dit une pensée profonde en 140 caractères. Voilà. Sûrement qu'Einstein aurait tweeté E égale MC2. Alors, TweetTabs, voilà comment ça se présente. On va y aller. TweetTabs, par défaut, on a deux mots-clés qui sont pas intéressants. Mais je fais une veille sur quoi ? Handicap. Ouais, ben, handicap, c'est un mot-clé où ça défile. Je fais une veille sur handicap. Je tape alors là, il va mouliner. Voici les derniers messages publiés sur Twitter avec le mot handicap dedans. Donc là, sur le mot handicap, il y a beaucoup de bruit. Parce que j'ai cherché, moi, sur handicap, scolarisation, sur mes deux mots-clés, c'est plus très pertinent. Donc là, il y a beaucoup de bruit. Je veux faire une recherche. Bon, on va voir sur qui parle de l'INRP. Voilà. On voit les gens qui ont signalé, en ce moment, c'est le dernier dossier d'actualité d'Agnès qui circule sur Twitter, qui est répertorié. Donc là, beaucoup de gens, on trouve le CRDP net et clair, CDI, donc on voit, c'est des CDI, des CRDP, Catherine Joulon, elle est au, j'ai oublié le nom de la revue, là, les dossiers de l'ingénierie pédagogique, voilà, là, on a des gens qui sont, donc au centre qu'on retrouve, hein, qui sont autour de l'éducation. Voilà, ce qui permet là d'avoir une veille instantanée. Dans une semaine, là, ces messages seront perdus. Donc, je peux pas me dire j'y vais une fois tous les 15 jours pour voir si ce qui est intéressant, parce que ça, on aura perdu une partie des messages. Mais comme il va scanner les messages en 140 caractères. Si tu mets deux mots, il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas les deux mots en même temps dans le même. Voilà. Donc, tu vas réduire énormément. J'ai essayé avec langue vivante, par exemple. Langue vivante, il y a presque rien qui circule. Si je mets langue. Il y en a beaucoup plus, des intéressants, mais y compris des choses qui n'ont rien à voir avec les langues vivantes. Bon. Alors, il existe des logiciels dédiés, mais je vais passer vite parce que depuis là, j'ai commencé le diaporama il y a une dizaine de jours, et depuis, non seulement les diapos que je vais vous présenter là, le logiciel a changé, et les fonctionnalités de Twitter en ligne ont changé aussi, ce qui permet des choses plus intéressantes. Donc, rapidement, le logiciel TweetDeck permet de faire des groupes. Ça veut dire qu'on classe les gens auxquels on s'est abonné, les gens qu'on suit, dans différentes catégories. Là, j'ai une catégorie TIS, une catégorie éducation, une catégorie langue. Comme ça, ça organise mes messages dans mon logiciel. C'est pas en vrac, mais c'est un peu plus organisé thématiquement. C'est pratique. Mais Twitter maintenant permet de faire ça, alors qu'il y a 15 jours, Twitter ne permettait pas de faire ça. Sur Twitter, on peut créer des listes. Je vais passer sur le site directement plutôt que de parler de diapos. Il y a une personne qui est assez intéressante à suivre, qui s'appelle Jacqueline Valadon, qui fait de la veille en infodoc. Jacqueline Valadon écrit pas mal, publie pas mal sur Twitter, donc et puis c'est généralement du contenu assez intéressant. Ça fait partie des personnes intéressantes à suivre. On voit que elle a créé deux listes, une liste plus centrée sur l'enseignement et une liste plus centrée sur infodoc. Si je clique sur sa liste infodoc, c'est pas les messages de Jacqueline Valadon qui sont qui s'affichent là, mais les gens qu'elle a repéré comme étant pertinent en infodoc et qu'elle a classé dans sa liste infodoc. Donc là, c'est une délégation de veille, en fait, à quelqu'un que j'ai repéré comme étant pertinent dans son domaine et qui me permet à moi d'aller suivre ce que disent d'autres que je connais pas, que j'aurais pas croisé autrement, mais qui publie a priori, si j'en crois, si je fais confiance à Jacqueline Valadon, qui publie des choses qui peuvent être intéressantes en infodoc. D'accord? Donc, le fait de pouvoir créer des listes, les listes sont mises à disposition des internautes qui passent par là. On rajoute la valeur de l'organisation à tous ces messages sur Twitter qui peuvent paraître assez affolants et on peut l'organiser thématiquement. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir les hommes politiques, comment ils se retrouvent listés, parce que beaucoup sont sur Twitter et les listes dans lesquelles ils sont, c'est à éviter, je n'en veux pas. Bon, il y a toute une liste. Et c'est assez intéressant parce que c'est assez. On voit comment sont vus les hommes politiques qui tweetent sur Internet. À l'inverse, ces listes, on peut voir sur le Twitter de Jacqueline Valadon, qu'elle est listée 33 fois. Alors, on peut dire c'est du flicage, on peut pas faire ce qu'on veut. Oui, mais si on veut pas être vu sur Internet, il faut pas aller sur Twitter. Elle est listée 33 fois. Si je clique là, j'arrive à toutes les listes que d'autres personnes ont créées, mais qui ont repéré Jacqueline Valadon comme étant pertinente dans un domaine. Donc, je peux me dire que ces personnes qui ont repéré Jacqueline Valadon comme étant pertinente, comme moi je l'ai fait, peut-être qu'ils ont une liste qui est pertinente sur la même thématique. Mais parce qu'elle va pas forcément tout mettre sur Delicious. Quand elle tombe sur un truc intéressant, elle va pas forcément le mettre sur Delicious. Ou alors, elle va pas mettre la même chose sur Twitter, sur NetVibes et sur Delicious. Ouais, on publie pas forcément le même type d'informations sur Delicious, sur des sites qu'on veut garder de manière pérenne dans le temps, ou sur une information qui est très factuelle et très ponctuelle, qui nous semble pertinente et qu'on veut. Tout dépend. Si on suit une personne qui publie un message par mois, on va avoir accès aux 6 derniers mois sans problème. Une personne qui publie 50 messages par jour, et il y en a, les messages de ce matin, ils seront perdus déjà dans le. Donc tout dépend. Et c'est là, suivre quelqu'un qui publie énormément, c'est mission impossible. Je sais pas comment font certains, mais moi ça m'est arrivé de m'inscrire et que j'ai vite désinscrit parce qu'ils faisaient un bruit pas possible. Et sur l'eau, il avait pas 50 trucs intelligents à dire en 140 caractères sur la journée. Donc tant pis pour l'information que j'ai loupée, mais il aura pas pollué, fait du bruit pour d'autres types d'informations qui seraient venues aussi. Mais là, avec ces histoires de listes, on peut rebondir. J'ai listé une personne qui elle-même a des listes où je peux trouver des personnes intéressantes et par contre elle est listée par d'autres personnes qui peuvent aussi et par là on arrive à avoir un réseau et bon on arrive à repérer des noms qui reviennent régulièrement sur différentes listes. Alors là on est vraiment Laure a dit un gros mot hier, enfin elle l'a présenté comme tel, c'est le mot sérendipité. On est vraiment là-dessus, c'est que de rebond en rebond on arrive à des choses qu'on cherchait pas forcément au départ mais qui vont nous être bien utiles et qu'on est bien content d'avoir trouvé. Alors oui, je marquais délégation de veille, c'est-à-dire qu'on s'en remet à l'expertise d'autres, parfois, on profite, on vient enrichir ce qu'on fait avec l'expertise d'autres à qui on fait confiance. Et sérendipité, ben voilà, je l'avais mis. Sérendipité, j'ai mis la définition de Wikipédia, hein, c'est un néologisme, on le trouve pas sur le TLF. Découverte inattendue. J'ai remis les liens des différents outils et sites que je vous ai présentés. Voilà. J'en ai terminé.